deux fois. C'est pour Lucas Ocampos. Ocampos face à Kerrer. Ocampos qui rentre dans la surface de réparation. Le centre d'Ocampos, c'est pour Germain. Oh, le but de l'Olympique de Marseille. Oh, dès l'entame de cette deuxième période. Ocampos pour Germain. Germain qui trompe Areola. Et ça fait un but partout.
Ça, c'est ONPSG en 2019, avant la pandémie. Prochain duel demain soir à regarder sur Téléfoot et sur Canal+. Canal qui remplace le diffuseur défaillant Mediapro. Canal qui sauve la compète. Canal qui récupère tous les droits télé, exclusivité jusqu'en juin. Ça peut en faire du téléspectateur. Et surtout Canal qui a négocié à pas cher. Je ne sais pas si c'est du beau jeu, mais c'est bien joué. Et les clubs alors, eh bien évidemment, les clubs, ils ont un gros problème de valeur. Hein. Le championnat aujourd'hui, il vaut moitié moins que prévu. Le milliard est parti en fumée. Les voilà donc avec leurs dettes et moins de recettes. Les droits télé, comme dirait l'autre, ben, ça a eu payé, ça paye plus. Les billets, ça se vend plus. Et en ce moment, les joueurs, non plus. Ça s'appelle un modèle économique à bout de souffle, parce que finalement, le foot, c'est un business pas énorme. Hein. Gros revenus, petite marge. Donc, économie, réduction de salaire, appel aux actionnaires, là on a quelques millionnaires. Bref, des réformes, ça va être ça hein, pour les clubs les prochains mois. L'accord avec mi-temps, avec Canal, on peut dire que c'est la mi-temps, la pause tactique. Mais pour le foot français, le match, il se joue en ce moment et l'heure est au réalisme.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Tous en short sur le terrain, c'est le magazine d'économie de France Inter. Il est réalisé par Juliette Gou. Valentin Pérez est attaché de production et à la technique, Louis Audebert nous accompagne. Ils sont là, ils ont l'esprit sportif, je continue la métaphore, hein, je vais m'arrêter. Les débatteurs dont n'arrête pas l'écho, Laurent Bigorne de l'Institut Montaigne. Laurent, à distance ce matin, mais bonjour. Laurent.
Bonjour.
Et Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques. Bonjour Christian.
Bonjour, et en short aussi, il fait tellement chaud dans le studio.
Bientôt il y aura la vidéo. Alors, Christian, sur le foot quand même, on en a parlé. Est-ce que vous êtes de ceux qui espèrent que moins d'argent dans le foot, ça fait plus de bon sport au stade?
Bah, ça fera un foot plus sain, j'espère en tout cas, puisque les salaires sont plus élevés ailleurs qu'en Europe. Et vous savez que les salaires dans le foot, c'est quand même complètement démentiel.
Pour certains, hein, pour certains.
Pour certains,
pas
bien
tous.
Sûr, bien
bon.
Sûr.
Alors, votre débat ce matin, on n'est pas du tout dans le sport. On revient sur cette affaire GameStop. Nous allons tout vous raconter de ces boursicoteurs qui ont secoué Wall Street. Est-ce qu'il faut y voir un signe? On se retrouve, Laurent, Christian, dans une poignée de secondes. Au menu également, nos transports publics. Aujourd'hui, il y a moins de voyageurs qu'avant et le secteur n'est pas sûr de revenir un jour à la normale, ce qui change tout, évidemment. Vous entendrez le reportage à Rennes d'Anaël Verzo. Et notre invité, c'est le président de l'UTP, l'Union des transports publics et ferroviaires. C'est aussi le patron du groupe Transdev. Et Thierry Mallet sera avec nous dans le studio à 9h45. Comme tous les samedis, on bouclera le Magéco avec vos questions de vie au boulot. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
C'est Léna qui vous a envoyé un mail.
Oui, Léna est intermittente du spectacle. Vous savez, les intermittents ont normalement le droit au chômage partiel. Mais comment faire pour l'obtenir?
Eh ben, la réponse, c'est comme d'habitude, juste avant 10h. Mais tout de suite, une bonne histoire comme un polar américain. Il y a déjà des réalisateurs intéressés. Hein. Des boursicoteurs avec le réseau social Reddit, avec l'application Robin des Bois qui s'attaque à Wall Street. Voilà, c'est ça l'affaire GameStop.
GameStop, c'est une chaîne de magasins de jeux vidéo dont l'action est devenue un peu le symbole de la croisade des petits porteurs, en tout cas des petits investisseurs amateurs, contre l'élite financière, contre les fonds d'investissement de Wall Street.
Amateur investors have been leading a wild ride on Wall Street, coordinating to buy stock in GameStop.
On considérait que jusqu'à présent, les traders, notamment des hedge funds, avaient une fonction de régulation des marchés.
Eli Cohen, économiste, directeur de recherche au CNRS.
C'est-à-dire quand ils détectaient une anomalie, eh bien, ils empruntaient des titres, ils les vendaient, ils provoquaient l'effondrement du titre et après, ils rachetaient et à ce moment-là, ils gagnaient à tout coup. Eh ben non, ce qui se passe maintenant, c'est que des petits porteurs, groupés grâce aux réseaux sociaux, peuvent faire échouer cette démarche, c'est-à-dire ce jeu qui consiste à casser une entreprise en jouant à sa disparition programmée. Donc je crois que c'est un événement majeur qui vient de se passer.
Las GameStop haben die Turbulenzen an der Wall Street angehalten.
La frenesia dei trader dilettanti.
GameStop había perdido mucho valor porque grandes fondos de cobertura vendían a corto sus acciones para que bajaran de precio y luego volver a comprarlas.
Je pense qu'on a clairement une nouvelle forme d'activisme qui est l'épargnant, le boursicoteur activiste qui veut emmener avec lui le plus de décideurs et d'investisseurs pour faire bouger les choses.
Adrien Dumas.
Tout simplement, Robin Hood, ça veut dire Robin des Bois. Dans Robin des Bois, il y a la volonté de mieux répartir la richesse.
Gérant chez Mandarin Gestion.
Et il y a parmi ces communautés effectivement des revendications sur le fait que les épargnants et les boursicoteurs, pour eux, c'est aussi un moyen de faire profiter leur patrimoine et de récupérer une partie de l'argent qui leur est dû, ou en tout cas participer plus à l'évolution et au développement économique.
Il y a derrière tout cela un phénomène beaucoup plus fondamental qui est la déconnexion complète entre le marché des actions et la situation économique et la situation de la population.
Georges Hugeux.
Et le mouvement de base, qui est donc les paris qui sont pris contre Wall Street, est effectivement un mouvement qui considère que on est dans un casino qui n'a plus rien à voir avec l'économie.
PDG de Galileo Global Advisors, ancien vice-président de la Bourse de New York.
Et qu'il faut empêcher ceux qui spéculent constamment de pouvoir agir comme ils agissent.
L'affaire GameStop, Christian Chavagneux, Laurent Bigorgne. Avant toute chose, je crois qu'il faut quand même nous re-raconter l'histoire de ces derniers jours, voire semaines. Que s'est-il passé, Christian? Quand ou avec qui?
Alors, il y a une dizaine de jours, l'entreprise américaine GameStop, elle est connue en France sous la marque Micromania, elle vend des jeux et des consoles de jeux physiques, d'accord, au moment où tout se passe sur Internet. Donc, c'est pas une entreprise, on va dire, très très florissante, d'accord. Des fonds spéculatifs ont décidé d'utiliser une technique qu'on connaît depuis des siècles. Alors, attention, pardon, ça s'appelle la vente à découvert. En anglais, le short selling. Il s'agit pas de vendre en short, mais de vendre en n'ayant pas l'action. Qu'est-ce qu'ils font?
Et les fonds spéculatifs, ça s'appelle des hedge funds.
Ça s'appelle des hedge funds en anglais.
Parce qu'on peut lire ça dans les articles autant.
Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir d'autres fonds ou des banquiers en disant, tiens, tu peux pas me prêter 10 000 ou 20 000 actions de GameStop, s'il te plaît, et je te les rends dans 10 jours. Qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils ont l'action GameStop? Au début janvier, elle valait 20 $, l'action, d'accord? Donc, ils la vendent tout de suite, 20 $. Et ils espèrent, dans 10 jours, quand ils vont devoir le rendre aux copains qui leur ont prêté, la pouvoir la racheter, mettons, 15. Donc, ils ont vendu à 20, ils ont racheté à 15, ils empochent la différence. Alors, ces short sellers, ils ont pas du tout bonne presse. Parce que, rappelez-vous, ce sont eux qui ont attaqué la Grèce au moment de la zone euro. Ce sont eux qui ont fait tomber des entreprises au moment de la crise des subprimes. Donc, il y a plein de gens qui leur en veulent beaucoup. Ce sont les méchants de la finance. En face, vous avez une horde de particuliers, des gens comme vous et moi, qui peuvent mettre 100 €, 1 000 €, peut-être un peu plus pour certains, on le verra tout à l'heure, et qui se décident de se coaliser pour acheter l'action GameStop. C'est pas tout à fait ça, mais disons pour faire monter le prix de l'action GameStop. Ce qui fait que ces fonds spéculatifs qui ont vendu à 20 au moment de racheter, ils ne rachètent pas à 15, ils voient que l'action elle vaut 100, 200, 300, 400, à un moment donné, près de 500 $ le 27 janvier dernier. Donc ils se prennent un bouillon terrible. Ils ont vendu à 20, ils doivent racheter à 100, 200, 400. Et là, donc vous avez le storytelling que vous avez entendu dans le Zap, dans la grande majorité des experts qui sont intervenus. C'est les gueux qui ont été contre les méchants fonds spéculatifs, c'est le petit pousset qui a mangé l'ogre, c'est les rebelles qui ont tué Dark Vador, et c'est la Révolution française qui a mis par terre l'aristocratie financière. C'est pas du tout ça qui s'est passé. Attention.
Ah, attention, on va avoir un décryptage. Laurent Bigorgne, elle vous a intéressé, vous aussi, cette histoire? Vous la voyez comme une espèce de David contre Goliath financier 2.0, ou bien c'est juste un fait divers boursier? On s'emballe.
Moi, j'ai le sentiment que ça ressemble beaucoup plus à un fait divers boursier. Alors, est-ce qu'il y a un changement de structure derrière? On pourra en débattre. Mais d'abord, Ngueu qui a coalisé tous ces Robin des Bois, c'est un réseau social comme les autres. Il s'appelle Reddit. Il a été créé il y a quelques années. Comme tous les réseaux sociaux, on y trouve des contenus racistes et sexistes. Comme tous les réseaux sociaux, ils vident la publicité, ils génèrent des revenus. On pense à peu près 100 millions en 2019. Il a beaucoup d'utilisateurs qui passent plus de temps en moyenne sur ce réseau à discuter effectivement dans certains forums d'investissement. Il y a à peu près 52 millions de gens qui s'y connectent tous les jours. Et c'est, comme tous les réseaux, un réseau qui a des actionnaires. Et on a appris qu'en février 2019, Reddit avait fait entrer à son capital un géant chinois, en l'occurrence Tencent. Donc vous voyez qu'on est assez loin d'une rupture, j'allais dire, conceptuelle. Alors, il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir si le joyeux mélange entre techno, gratuité, des ordres de bourse et pandémie, au fond, on n'a pas créé un cocktail nouveau. Je m'explique. D'abord, aux États-Unis, on a maintenant un triomphe véritablement éclatant du courtage en ligne, c'est-à-dire de l'achat d'actions qu'on peut déclencher depuis son canapé. Et en plus, c'est gratuit, ce qui est différent de Europe. Et que s'est-il passé pendant la pandémie? Eh bien, c'est une analogie, je trouve, intéressante. C'est que pendant la pandémie, on a arrêté les paris sportifs puisqu'il n'y avait plus de compétition sportive.
Bah oui.
Sur quoi les gens se sont mis à parier? En partie, évidemment, sur Wall Street.
Donc Christian Chavagneux, vous vous dites il faut pas se laisser berner par le conte de fées.
Ouais, tout à fait. Alors c'est vrai que les short-sellers, je les aime pas beaucoup non plus. Hein, c'est vraiment des vautours qui viennent attaquer les entreprises ou les États quand ils sont au moment où ils sont les plus faibles.
Mais on dit qu'ils ont un rôle dans le monde de la finance.
Oui, ils ont un rôle. Les financiers disent qu'ils ont un rôle parce que quand vous voulez vendre, faut bien qu'il y ait un acheteur. Ou quand vous voulez acheter, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui vende. Et ces fonds spéculatifs, ils sont ça des contreparties, comme on dit.
Mais donc, même ça... des nettoyeurs. Hein, on dit que quand les entreprises sont faibles, elles ont pas le droit de vivre. Et ben les nettoyeurs arrivent.
Ah, d'accord, mais est-ce que la Grèce fallait la nettoyer, enfin vous voyez, c'est il y a c'est
autre
aussi,
sujet là,
c'est,
ouais, voilà, on est loin de GameStop. Okay.
C'est un peu délicat. Non, mais ce qui s'est passé, c'est que quand vous regardez bien la stratégie qu'ont suivi ces milliers de gens qui ont fait monter le cours de l'action, ils n'ont pas été sur le marché en disant tiens je vais acheter de l'action GameStop. Ils sont passés par des produits financiers ultra sophistiqués. Ils ont anticipé que parce qu'ils allaient faire varier beaucoup le cours, il y a d'autres acteurs financiers qui allaient engager des stratégies de couverture contre ces variations et de se protéger contre ces variations, et donc ça allait faire encore monter le cours de l'action. Ils ont organisé une pénurie des titres GameStop au moment où les fonds spéculatifs voulaient les racheter. C'est hyper sophistiqué. Vous en avez un qui est le leader, qui s'appelle Deep Fucking Value, parce que comme beaucoup sur les réseaux sociaux, ou sur, mais je vous donne juste son nom, son pseudo, qui lui, il a affiché sur son forum, j'ai mis $50,000, j'ai gagné $23 millions. Honnêtement, $50,000, c'est pas tout le monde qui peut aller jouer $50,000 en bourse. Donc il y a des gens qui sont des petits malins, avec des stratégies financières ultra sophistiquées, qui se sont appuyés sur, effectivement, des gens qui vous laissent venger contre les méchants fonds spéculatifs qui ont fait tomber leur entreprise au moment de la crise des subprimes et qui ont gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, c'est des stratégies ultra sophistiquées avec des gens qui avaient beaucoup d'argent. C'est juste un rapport de force entre financiers. C'est pas les petits contre les gros.
Laurent Bigorne, est-ce que vous avez la même analyse? Il faut pas lire ça comme, en effet, la prise de la Bastille financière.
Surtout pas. Oui, Je suis d'accord avec Christian. Alors, on viendra peut-être sur le rôle de ceux qui vendent à découvert, mais globalement, ce qui s'est effectivement passé, c'est qu'il y a eu depuis décembre un certain nombre d'informations qui expliquaient que GameStop était sous-évalué, alors même que Christian l'a rappelé, c'était une entreprise en perte de vitesse. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les sous-jacents? D'abord, il y a des bulles boursières compte tenu de la présence massive d'argent à travers les injections des banques centrales. Et puis, ces bulles boursières se reportent sur un certain nombre de valeurs ou de secteurs, notamment les valeurs de la technologie, ce qui crée une très très grande, et c'est ce qui inquiète le régulateur américain, et c'est ce qui devrait aussi inquiéter le régulateur européen, il y a une très grande volatilité financière. Il y a beaucoup de nervosité parce qu'il y a le sentiment que des masses d'argent considérables peuvent se déplacer. Alors, est-ce que dans ce contexte, on assiste à l'émergence d'une culture un peu alternative de l'investissement? C'est-à-dire, les canaux d'information ont changé. On voit, c'est plus CNBC ou Goldman Sachs qui fait la loi, mais c'est Reddit ou le forum dont on parle sur Reddit, Wall Street Bets. Est-ce que, au fond, l'enjeu n'est plus celui de la détention à long terme, mais de gains et de pertes considérables et immédiats? Ouais. Et est-ce qu'on est face à une bourse qui maintenant va être structurée par des gourous, de la même façon que Donald Trump avait tendance à tweeter pour parler au monde? Elon Musk, il a pris l'habitude de tweeter sur des valeurs, de mettre un mot, parfois quelque chose qui est un peu encodé, un peu mystérieux, mais que vont comprendre des millions d'utilisateurs de ces forums pour effectivement se déplacer, ce qui d'ailleurs nous emmène aux limites de la légalité parce que on n'est pas à l'abri, si vous voulez, d'une manipulation de l'information. Maintenant, un point. Après GameStop, le forum en question a cherché à s'attaquer, par exemple, au marché de l'argent. Seulement, le marché de
l'argent, le métal,
c'est pas 2 ou 3 milliards de métal, exactement. Le marché de l'argent, c'est 1500 milliards. C'est pas un marché qu'on déplace. C'est pas une valeur à la baisse. L'argent, c'est une valeur qui est très utile, du côté des banques, très utile aussi dans l'industrie, notamment à l'heure de l'électronique. Et ils n'y sont pas arrivés. Alors même que, on voit bien, toute une partie de l'information sous-jacente sur les sites concernant le marché de l'argent est rempli de fake news et de théories du complot comme quoi les banques dans le monde s'organiseraient pour sous-coter l'argent.
Plein de choses dans ce que vous dites, Laurent. Il y a la déconnexion des marchés financiers avec la réalité. Il y a quand même aussi ce changement de philosophie là. Puisque vous avez dit sur Elon Musk, c'est passionnant en effet. Hein, il met des petits. Voilà. La bourse n'est plus ce qu'elle était. Christian, qu'est-ce qui vous fait réagir?
Alors sur la volatilité de la bourse et des marchés financiers en général, sur le fait que sur ces marchés vous avez des gourous qui essayent de pousser dans un sens ou dans l'autre, ça c'est multiséculaire. Ça a toujours fonctionné comme ça. Donc ça c'est pas vraiment le changement aujourd'hui par rapport à ce qui se fait d'habitude. d'habitude. Là, le changement, c'est qu'on s'aperçoit que tout le monde, chacun d'entre nous, tous les auditeurs de France Inter, dont on n'arrête pas l'écho, peut devenir un spéculateur. Ah, quel progrès, honnêtement. C'est vraiment n'importe quoi. C'est pas majoritairement le combat des petits contre les gros. On l'a dit, il faut avoir beaucoup d'argent et adopter des stratégies financières très sophistiquées. Robin Hood, c'est donc juste un broker, c'est quelqu'un qui a un intermédiaire, il va aller demander...
Alors attendez, il faut revenir. Les boursicoteurs dont on parle, ils se sont servis de ce courtier, ils ont utilisé ce courtier gratuit dont parlait Laurent.
Qui s'appelle Robin Desbois, Robin Hood, et lui, il va pas acheter ou vendre des choses, des produits financiers, il va chercher un autre fonds spéculatif, en l'occurrence, il s'appelle Citadel, en lui disant, tiens, j'ai des gens qui me passent des ordres, est-ce que tu peux les faire pour moi? Donc ce fonds-là, Citadel, il a beaucoup gagné. Ça a fait de la volatilité dans tous les sens sur l'action GameStop. Les fameux traders à haute fréquence, ceux qui sont avec leurs algorithmes et leurs ordinateurs, qui à la microseconde vous font des achats et des ventes, ils s'en sont mis plein les poches. Il y a d'autres fonds spéculatifs qui ont joué au bon moment en achetant et en vendant au bon moment, en suivant les autres. Donc ça n'a pas du tout été les petits qui ont volé de l'argent aux gros, c'est juste de l'argent entre les gros qui s'est réparti de manière différente. Laurent l'a dit, il y a un côté manipulation des cours évident. Imaginez que vous ayez 3 ou 4 banques françaises qui tout d'un coup se mettent à dire « Ouais, on va attaquer telle entreprise et on va la faire plonger. » On n'a pas le droit.
Et donc, il y a quelque chose qui change quand même fondamentalement.
Sauf que les fonds spéculatifs, peut-être qu'ils le faisaient de manière planquée, alors que eux, ils le font de manière ouverte. Et d'ailleurs, il y a une enquête des régulateurs et du ministre de la Justice américain pour dire est-ce que c'était légal ou pas. Enfin, combien vaut l'action GameStop? Elle vaut 4$? Elle vaut 20$? Elle vaut 300$? Personne ne le sait. Encore un exemple du décrochage total de la finance par rapport à l'économie réelle.
Alors Laurent, le mot de la fin pour vous sur ce débat-là. Finalement, qu'est-ce qu'on en...
Moi, je parlerais plutôt du risque de décrochage, hein, parce qu'en l'occurrence, il faudrait pas que nos éditeurs croient que ça se passe comme ça tous les jours sur tous les marchés financiers. Par exemple, on sait que la contagion en France de ce type de mouvement est quasiment impossible, y compris du fait de l'action et principalement du fait de l'action du régulateur, et c'est globalement vrai de l'Europe. Maintenant, est-ce que ces mouvements chaotiques vont inciter des investisseurs rationnels à quitter Wall Street, c'est-à-dire à se dire nos stratégies d'investissement à long terme pour accompagner la croissance des entreprises n'ont pas de sens face à des gens qui sont totalement irrationnels? C'est la question que le régulateur, excusez-moi, c'est la psys. Le régulateur doit pouvoir régler, sachant qu'effectivement, hein, on le sait bien, on a des marchés qui sont globalement en ce moment trop optimistes. Le Fonds monétaire international a rappelé encore cette semaine, trop optimistes par rapport à la réalité économique. Et quand on regarde un peu des sondages, on voit que les professionnels de la finance crient au bug sur les marchés financiers, principalement sur les crypto-monnaies et les valeurs tech. Donc évidemment, c'est un dossier à suivre avec beaucoup d'attention. Mais comme l'a dit Christian, Janet Yellen, la nouvelle secrétaire au Trésor, et je pense que de ce point de vue-là, l'arrivée d'une nouvelle équipe à Washington va tout changer, va changer les intentions du pouvoir politique, a pris le taureau par les cornes et a considéré que c'est quelque chose dont elle devait se soucier avec le patron de la Fed.
Et bientôt sur vos écrans, donc. L'éclairage de Laurent Bigorgne et Christian Chavagneux, les débatteurs du samedi. Merci à vous, Christian, Laurent. Allez, on se retrouve samedi prochain. Et sans transition, on passe de la finance au service public. Et à EDF, ça c'est un dossier qui pourrait vraiment aussi prendre de l'ampleur. Vous avez peut-être vu dans la rue ces affiches de pub avec un visage de petit garçon qui dénoncent une volonté de privatisation. Ce sont les salariés d'EDF qui en appellent aux Français. Ils s'opposent au projet Hercule qui prévoit donc la scission d'EDF en 3 entités différentes. Et il y en aurait une qui serait pour les renouvelables et qui serait cotée en bourse. Alors ce projet, on en parle depuis environ 18 mois, mais ça reste encore flou. Hein. On a le PDG d'EDF qui le porte, on a Bercy qui le porte, mais on apprend que Bruxelles a son mot à dire. Et ben c'est là que nous nous rendons ce matin pour faire un zoom sur une des pièces de ce puzzle EDF. Bonjour Angélique Bouin.
Bonjour, bonjour à tous.
Angélique, vous êtes la correspondante de France Inter auprès de la Commission européenne. Alors, il va falloir nous expliquer, hein, est-ce que Bruxelles a des plans pour EDF? Quel est le cœur des négociations qui ont lieu actuellement chez vous sur l'avenir de notre énergéticien français?
Eh bien, il y a deux dossiers en parallèle, hein, qui finalement se croisent. D'abord, le prix régulé de l'électricité nucléaire. EDF est tenu de vendre une partie de sa production à des fournisseurs alternatifs, hein, en concurrent, donc à un prix fixe, 42 euros le mégawattheure. Mais l'entreprise, très endettée, estime que ce prix est trop faible. Ce dispositif, négocié avec Bruxelles en 2011, visait à soutenir l'émergence de concurrents sur ce marché. Aujourd'hui, EDF estime plutôt qu'elle les subventionne et veut donc revoir ce tarif pour pouvoir maintenir son parc nucléaire vieillissant et investir, par exemple, dans les énergies renouvelables. L'autre volet de la négociation avec Bruxelles porte sur un différend ancien que la France doit régler. C'est celui des concessions hydrauliques, les barrages, les usines EDF. La France est mise en demeure depuis longtemps, hein, par Bruxelles d'ouvrir ses concessions au secteur privé au nom de la concurrence. Mais sur ces barrages, EDF dit avoir des contraintes en sa qualité d'acteur public dans la gestion des rivières, par exemple, que n'aurait pas une entreprise privée, ce qui fausserait, dit-on chez EDF, la concurrence. La France veut donc garder ses concessions publiques et négocie en ce moment même un statut particulier.
Donc ça, c'est toute la négociation de Paris avec Bruxelles. Et puis il y a quand même en toile de fond ce projet Hercule, Angélique, une réorganisation totale de l'entreprise.
Oui, et l'idée en fait c'est de séparer EDF en trois entités, c'est ce qui est proposé par la France à Bruxelles. Un EDF baptisé Bleu qui regrouperait la production d'électricité nucléaire pour lequel on négocie donc le prix du mégawattheure. Une EDF Verte qui regrouperait la production d'énergie renouvelable, la distribution et la commercialisation de l'électricité, dont, c'est très important, le capital serait ouvert à des investisseurs privé. Et puis un troisième EDF baptisé Azur qui coifferait la production hydraulique et qui pourrait peut-être être renationalisé hein, pour éviter une concurrence, comme on l'a expliqué, jugée déloyale. Trois entités, mais dans un même groupe, c'est ce que défend actuellement la France. Et ce qui se négocie ici très précisément en ce moment, c'est l'épaisseur des murs entre les trois blocs. Pourquoi ? Parce que Bruxelles ne veut pas, par exemple, hein, que la hausse des prix de l'électricité régulée qu'elle pourrait accorder serve, par exemple, à payer des investissements dans les énergies renouvelables hein, en biaisant, pour le coup, la concurrence.
Alors, vu de Bruxelles, pourquoi certains craignent-ils que ce projet aboutisse à une privatisation d'EDF ?
Ah, vu de Bruxelles et puis vu des syndicats, hein, je peux vous dire sur place chez vous. Hein, parce qu'en fait, l'une des trois entités, la verte, on l'a dit, celle des énergies renouvelables, pourrait, selon le projet du gouvernement, être ouverte à des investisseurs privés. Or, cette énergie verte, eh bien, vous le savez, ça attire les convoitises et les investissements. Et puis ce secteur, on le rappelle, bénéficiera à plein dans les 7 prochaines années des milliards d'euros du pacte vert européen. Certains estiment donc qu'à terme, eh bien, l'État pourrait y devenir minoritaire.
Voilà, un gros dossier en perspective. Angélique Bois, merci, en direct avec nous depuis Bruxelles. Il est 9h34 sur France Inter. Dans 10 minutes, on a l'invité du Mag Éco. C'est le patron du groupe Transdev, Thierry Mallet, un groupe de transport en province, mais dans le monde également, vous verrez. Le virus, il a détourné nombre de voyageurs, des bus, des métros et des trams. Alors, quel avenir pour notre transport public? C'est le reportage d'Anna Elverzo. Attention, Rennes, 3 minutes d'arrêt.
Voilà, je viens d'arriver à la gare de Rennes. Alors le train dans lequel j'étais était complètement plein, archi plein. Ah, là voilà Valentine.
Bonjour.
Toi Valentine, tu bosses dans quoi ?
Alors je travaille dans l'informatique, dans une filiale d'Orange qui s'appelle Orange Application for Business. Voilà, je suis ingénieure informaticienne dans la data.
Et alors du coup, tu es en télétravail en ce moment ? En télétravail à 100%?
À 100% et nos sites sont fermés. Je prends plus du tout les transports en commun. Et puis on va beaucoup moins en ville. On prenait aussi les transports pour voilà, aller faire des courses, des choses comme ça. Et on se déplace beaucoup moins aussi sur des moments personnels.
Tu dis on, c'est toi et ton conjoint?
Moi, mon conjoint, ma fille.
Parce que vous avez peur d'attraper le Covid dans les transports?
Je suis pas très loin du centre-ville, donc c'est des déplacements que je peux faire à pied ou en vélo. Donc pour moi, c'était un choix, c'était pas un impératif de prendre les transports en commun. Donc je fais plutôt le choix d'éviter la promiscuité des transports en commun aujourd'hui. Et là, pour moi, un autre facteur, c'est que les rues se sont vidées avec le télétravail. Donc en fait, c'est beaucoup plus facile de prendre la voiture. Et puis j'ai plus pris le vélo aussi.
Si on fait une projection, est-ce que quand il n'y aura plus cette crise sanitaire, tu imagines reprendre les transports en commun ou...
Bah, je me suis équipée, j'ai acheté un vélo, un meilleur vélo pour aller au travail. Donc je pense que pour moi, ça, je prolongerai comme ça. Ce sera beaucoup plus épisodique de prendre les transports en commun.
Et est-ce que tu vas plus
en
vite ?
En fait, les transports en commun, c'est ce qu'il y a de plus long. Alors, c'est pas des temps. Moi, j'ai 6 km pour aller au travail. Donc la voiture, quand ça roule bien, ou le vélo, c'est clairement plus rapide que les transports. Je dois être sur 35-40 minutes quand je suis sur entre 20 et 30 minutes en voiture. Donc c'est un peu de temps de gagner.
Mais c'est un vélo électrique ou un vélo classique ?
C'est un vélo électrique. Ça monte pour aller jusqu'au travail.
Ah bah, je suis parfaitement d'accord, Valentine. Si ça monte, il vaut mieux le vélo électrique. Bon, les usagers des transports publics, ce sont 10 millions de personnes chaque jour. On en a quand même 3 sur 10 qui disent qu'elles vont prendre moins souvent leur bus, leur métro, leur tram, leur train, dont 3% qui pensent que les transports collectifs, c'est pour elles totalement fini. Bref, l'équation offre-demande, elle est complètement bousculée. Du coup, le financement par les voyageurs, les entreprises et les collectivités locales, eh bien, il est affecté. Est-ce que c'est la même chose sur tout le territoire ? Est-ce que c'est temporaire ? Est-ce que, du coup, certains investissements vont être remis en question ? Allez, voyons à Rennes ce qu'en dit l'opérateur de ces transports. On est toujours avec Anaëlle Verzeau. Et après, Anaëlle prend le train, Anaëlle prend le métro.
Là, j'ai rendez-vous avec Laurent Sénigou, le directeur général de Keolis Rennes, qui est une filiale de la SNCF.
On reste avec une fréquentation qui est quand même très en deçà de celle qu'on observe habituellement. Le métro à Rennes, c'est entre 130 000 et 150 000 clients par jour. Et là, on tourne autour de 60 à 70% selon les jours.
Alors, ces baisses de fréquentation, elles ont entraîné des pertes économiques nécessairement. De quel montant ?
Alors, il faut distinguer le réseau et l'entreprise Keolis. Donc, si on prend le réseau Star, la baisse de fréquentation, elle s'est traduite par une perte de recettes entre 12 et 15 millions d'euros en 2020. Quand on regarde ça au niveau de l'entreprise, l'entreprise sera en perte en 2020.
En perte de combien ?
En perte de quelques centaines de milliers d'euros, certainement. Voilà, il faut attendre que les comptes soient figés.
Et comment est-ce que vous pourriez remonter la pente ?
Sur le plan sanitaire, il faut qu'on soit en capacité de rassurer nos clients, de dire que, ben, effectivement, prendre le métro, prendre le bus, c'est pas dangereux, on désinfecte. Donc ça, on avait commencé à travailler sur ces sujets. La crise sanitaire, ça a été un accélérateur de ces sujets, à la fois sur le plan sanitaire, sur le plan de la sécurité et sur le plan aussi des nouvelles habitudes de mobilité.
Veuillez patienter. Communication établie.
Ok, vous pouvez entrer, madame.
Merci beaucoup. Donc, des pertes importantes de 12 à 15 millions d'euros pour le réseau de transport de Rennes et de quelques centaines de milliers d'euros pour l'entreprise Keolis. Et pour la métropole de Rennes, quelles sont les conséquences de cette baisse de trafic ? Est-ce que ces difficultés financières remettent en cause les projets en cours ? Je vais voir Mathieu Theurier, chargé des transports à la métropole de Rennes.
En fait, plus tu mets du monde sur la ligne B, plus tu as du monde sur la ligne A.
Alors, vous avez fait des investissements pour une deuxième ligne de métro. De quel montant ?
1,4 milliard d'euros.
Ça représente beaucoup d'argent.
Le budget de la métropole, c'est à peu près 900 millions d'euros par an. Donc effectivement, quand on engage des investissements de l'ordre d'1,4 milliard d'euros, c'est des investissements qui nous engagent sur le long terme. Le fait est que le gros du pic d'investissement, il est déjà passé. Ce projet, il a démarré il y a 15 ans maintenant. Il n'y a aucune raison de remettre en question ces investissements parce qu'ils sont nécessaires à notre territoire. Après, les questions qu'on a, enfin, ce qu'on va vraiment beaucoup regarder, je pense, c'est effectivement la question de comment est-ce que les habitudes de télétravail vont changer. Sur l'exploitation en tant que telle, sur l'année 2020, on perd 6 millions d'euros, auxquels il faut ajouter notre perte de fiscalité de l'ordre de 10 millions d'euros. Et c'est vrai que la tendance, de mon point de vue, elle est plutôt à une baisse de la part usagée. Et si on baisse la part usagée, il faut retrouver sur de la fiscalité.
Une partie des transports publics est payée par le ticket qu'on paye. Il y a une part usagée, mais il y a aussi une part entreprise, 52%, et une part dotation de l'État et collectivité. C'est-à-dire qu'il faudrait que les entreprises payent plus, c'est ça que vous me dites ?
Si la part usagée s'érode et continue à s'éroder durablement, il faut venir compenser à un moment ou à un autre. Et pour compenser à un moment ou à un autre, c'est forcément sur une forme de fiscalité que ça se fait.
Le versement
mobilité aujourd'hui, il est à 2,5% de la masse salariale des entreprises de plus de 11 salariés en Île-de-France. Nous, dans les territoires, il est à 2%. Maintenant, est-ce que c'est une fiscalité locale ? Est-ce que c'est une fiscalité nationale ? Aujourd'hui, j'ai absolument pas les réponses par rapport à ça, mais il faut qu'on ait les yeux grands ouverts sur ces enjeux-là, parce que dans une perspective de transition écologique, le développement des systèmes de transport en commun, qui ne demandent pas toujours des infrastructures lourdes, d'ailleurs, hein, le covoiturage, c'est aussi un transport en commun qu'il faut développer, ça nous demande en tout cas des moyens. Et ces moyens, il ne faut pas qu'on en soit durablement privé, parce que sinon on va passer à côté aussi de la réponse qu'on a apportée sur les enjeux climatiques.
Et des moyens, il n'en faut pas seulement pour les grandes métropoles. Dans les villes plus petites, ceux qui pêchent avec la crise sanitaire, ce n'est pas la demande, mais l'offre de transport. Alexandra habite dans les Pyrénées-Orientales, à la frontière espagnole, et elle a tenu à m'appeler pour nous faire partager son expérience. Vous allez vite comprendre pourquoi. Allô ?
Allô ?
Oui, Alexandra, vous m'entendez bien ?
Oui, ça y est.
Alors, Alexandra, vous habitez à Cerbère ?
C'est ça, oui, à Cerbère, c'est sur la frontière là, avec l'Espagne.
Et alors, si j'ai bien compris, vous avez décidé de ne plus avoir de voiture pour des raisons écologiques.
Oui, c'est ça. Il y a un peu plus d'un an, et demi, j'ai vendu ma voiture et donc j'ai pas racheté de voiture.
Du coup, vous alliez au travail en train, c'est ça?
Oui, train et vélo. En train jusqu'à la gare de Perpignan, puis jusqu'à l'hôpital à vélo. Le train, c'est 35 minutes et à vélo, un petit quart d'heure.
Vous êtes urgentiste, hein, c'est ça?
Oui.
Sauf que les TER sont supprimés, comment vous faites du coup?
Ils ont été supprimés surtout pendant le confinement en fait, pas totalement, mais le week-end totalement.
Et alors comment vous faisiez, parce que vous aviez besoin d'aller travailler?
C'est m'être arrivé le week-end d'y aller à vélo, pour les nuits en fait, hein, pour travailler de nuit, donc de partir le soir et revenir le lendemain matin.
Mais du coup vous mettiez combien de temps?
2h30.
Mmh. 2h30 aller, 2h30 retour?
Ouais, bon... Non, mais j'étais assez en colère qu'il n'y ait aucun train et aucun moyen de... Parce qu'habituellement, quand il y a une grève, ils mettent au moins un bus. Là, il n'y a ni bus ni train.
À présent, vous pouvez reprendre le train et le vélo.
Oui, en ce moment, ça marche. Après, c'est pas optimal, hein, dans le sens où il n'y a pas des trains toutes les heures, par exemple, en journée. Il y a des trains toutes les heures, vraiment aux heures de pointe. Mais moi, c'est vrai que pour commencer à 19h, je dois partir à 16h20. Quand le lendemain, je termine à 9h, ben, je dois attendre le train de 11h. Ça rallonge à chaque fois vraiment les gardes, quoi.
Les entreprises de transport doivent-elles réadapter leurs offres et revoir leur modèle économique? Est-ce qu'on va vers une modification en profondeur de nos transports? Bruno Marsloff est sociologue, fondateur du cabinet de prospective Chronos.
Pour moi, en tout cas, plus rien ne sera plus jamais comme avant en matière de transport. Il faut qu'ils revoient leur offre de transport. Elle a été calibrée dans une perspective de croissance très forte. En fait, c'était l'offre qui fabriquait la demande. Et là, c'est l'inverse. C'est la demande qui, aujourd'hui, fixe les règles du marché. Donc, cette demande est moindre. Et il va falloir changer les accès au transport. Et on se dirige également vers une augmentation des offres de proximité qui réduiront également la demande de transport. L'ensemble des offres de transport sont solidaires. Lorsqu'on va augmenter les pratiques de transport en proximité, par la marche, par le vélo, par la trottinette, par même le covoiturage, il est bien évident que, dès lors, le transport public doit s'adapter à cette configuration. La difficulté, c'est que on veut maintenir une fréquence, donc il va falloir trouver des solutions qui soient plus flexibles, qui soient plus légères et qui irriguent mieux l'ensemble du territoire. Il y a d'ailleurs pas mal d'expérimentations qui se mettent en place. Il y en a une qui est très spectaculaire, qui se met en place à l'ouest de Paris, du côté de Mureaux, Mantes, etc., dans une intercommunalité de 400 000 habitants. Et là, en fait, ils construisent un réseau d'une centaine de hubs qui vont permettre, en tout cas, qui cherchent à organiser autrement la combinaison des offres de transport.
C'est quoi les hubs, pardon, pour ceux qui connaissent pas?
Des hubs, ce sont des lieux qui auront des parkings, qui auront des accès cyclistes, de stationnement de vélos, mais où déboucheront également des navettes, des arrêts de transport public. Et donc là, la volonté affirmée par les autorités est de réduire la place de la voiture soliste et d'encourager d'autres formes de transport public. Donc ça suppose, du côté des acteurs du transport public, d'accommoder leur offre à ce type d'organisation de transport de la demande.
Transport public à Caen, la sortie du tunnel. C'était le reportage d'Anaël Verzo.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Notre invité représente les opérateurs de ces transports publics et ferroviaires. C'est le président de l'UTP et il est aussi le patron du groupe Transdev. Bonjour Thierry Mallet.
Bonjour.
Transdev, vous nous rappelez qui vous êtes en France et dans le monde?
Alors Transdev, c'est 85 000 collaborateurs qui transportaient avant la crise 11 millions de passagers dans le monde, un peu partout, dans une vingtaine de pays. 40% de l'activité en France, 60% de l'activité à l'international, et nos deux grands pays après la France, c'est l'Allemagne et les États-Unis.
Et en France, par exemple, vous êtes dans quelle ville?
Alors, en France, on est au Havre, à Nantes, à Reims, à Grenoble, à Montpellier, voilà, pour en citer quelques-unes.
Alors, justement, vous parlez de la crise. Le gouvernement, là, est en train de nous pousser à télétravailler plus. Nous ne sommes même pas sûrs d'éviter un troisième confinement. Pour les transports publics, comment vous percevez 2021? À quoi vous préparez-vous?
Alors, je voudrais revenir rapidement sur 2020, parce que 2020 est une année difficile, hein, puisqu'on a effectivement eu des fréquentations très très différentes. Au moment du confinement, on était à moins de 7%. En juin, on est remonté à 50%. En septembre, avec la rentrée scolaire, 70%. On est même remonté jusqu'à 80% de fréquentation juste fin octobre, avant le deuxième confinement. Et aujourd'hui, on est aujourd'hui aux alentours, entre, suivant les réseaux, entre 55 et 65% de passagers. Donc on a perdu effectivement 30 à 40% de passagers qui ne sont plus avec nous aujourd'hui.
Et ça veut dire des pertes financières. Ça veut dire des pertes financières, combien?
Alors globalement, si on regarde l'impact pour le secteur, les chiffres, on n'a pas les chiffres finaux, mais on est entre 3,5 milliards et 4 milliards de pertes entre le versement mobilité, qui est la contribution des employeurs, qui n'a pas été versée du fait du chômage partiel, et surtout, la grosse part, c'est les pertes de recettes passagers, avec les passagers qui n'étaient plus avec nous, c'est les tickets unitaires, c'est les touristes qui ne sont pas là, et donc c'est une perte importante pour l'ensemble du secteur.
Ça veut dire qu'une entreprise comme Transdev, elle finit dans le rouge 2020?
Alors cette année, on va être dans le rouge. Si, alors il y a eu des compensations des États qui ont été mises en place dans les différents États. Il y a des secteurs de notre activité qui sont le tourisme ou l'aéroportuaire, où nous sommes présents chez Transdev, qui sont vraiment totalement à l'arrêt. Transdev, je vais vous donner deux chiffres. On n'a pas encore publié nos résultats finaux, mais l'impact Covid, c'est moins 700 millions de chiffre d'affaires pour Transdev. Ça veut dire à peu près 10% de chiffre d'affaires. On faisait 7,5 milliards. Mmh. Et c'est 200 millions d'EBIT. De résultats opérationnels qui a disparu après les compensations. Donc on a travaillé sur des compensations en interne, des économies potentielles. Mais c'est ça la réalité de l'impact financier.
Donc très lourd, et vous vous projetez comment sur 2021?
On reste effectivement, extrêmement vigilant. Je ne veux pas dire qu'on est inquiet, mais l'objectif c'est effectivement d'obtenir, comme on a pu le faire l'an dernier, et dans de meilleures conditions, des compensations financières qui permettent de maintenir l'offre. Parce que face effectivement à l'absence de passagers, il y a deux possibilités. Soit on réduit l'offre et on réduit les coûts, soit effectivement on maintient l'offre. Mais si on maintient l'offre, il faut qu'on ait effectivement un système d'aide qui nous permette de tenir cette période difficile qu'on pensait être terminée à la fin de l'année dernière et qui se poursuit.
Donc ça, qu'est-ce que c'est en ce moment? C'est une négociation? Est-ce que c'est un bras de fer avec l'État? Comment ça se passe?
Alors c'est des négociations qui se poursuivent encore. C'est surtout les collectivités locales qui négocient, puisque nos clients, qui sont les collectivités locales, négocient avec l'État. Il y a un certain nombre de pays qui avaient effectivement mis en place des programmes assez généreux en 2020. C'est l'Allemagne qui avait débloqué 5 milliards pour les transports publics. Ils en ont consommé 4. Et le milliard restant qui n'a pas été consommé est déjà placé sur le premier trimestre de cette année afin d'aider la compensation des transports publics. Les Pays-Bas avaient débloqué l'an dernier 1,5 milliard pour les transports et ils viennent de redébloquer 750 millions pour le premier semestre.
Et là,
on est en négociation en France.
Et la France, l'année dernière, a débloqué 3 milliards.
Il y a eu effectivement une aide qui a été accordée pour la partie versement mobilité et puis il y a eu une avance remboursable qui a été accordée aux collectivités locales. Mais il y a encore un débat entre les collectivités locales et l'État sur la forme de l'aide et sur, en particulier, sa pérennité en 2021 et sur le fait que c'est une avance remboursable, que ce n'est pas une subvention comme c'était le cas dans d'autres pays.
Thierry Mallet, est-ce que vous pensez que la baisse de la fréquentation dont on vient de parler, elle est temporaire? Une fois qu'il y aura le vaccin, finalement les gens reviendront, ou bien est-ce que c'est plus durable?
Alors, on pense qu'il y a une partie qui va être durable. Ça a été évoqué tout à l'heure. Il y a eu un certain nombre d'enquêtes qui ont été réalisées. On sait très bien qu'un certain nombre de passagers ne veulent plus reprendre les transports par peur. J'espère que le vaccin les fera revenir. Et puis, il y a eu un changement de comportement. Il y a effectivement à la fois le télétravail qui va pas continuer sous cette forme-là et de manière aussi importante, mais on va continuer de télétravailler, ce qui peut permettre d'ailleurs d'alléger la pointe de main, de permettre aux gens de faire une mobilité plus choisie plutôt qu'une mobilité subie, ce qui est très positif. Et puis il y a la marche, il y a le vélo qui sont ces modes doux, qui sont vraiment déplacés plutôt, qui sont plutôt développés d'ailleurs dans les centres-villes. Ça veut dire qu'il faut prendre en compte ce changement, mais qui peut être une opportunité. Ça veut dire que si demain il est bien confirmé que dans les centres urbains, dans les grands centres urbains, la marche et le vélo ont pris une part prédominante, il y a une offre de transport qu'on est capable de reprendre et de redéployer en périphérie.
Ça veut dire que votre préconisation, c'est peut-être que dans certaines villes, on met moins de bus dans le centre, mais qu'en fait, on serve mieux la banlieue, c'est ça?
Exactement. Mmh. On sait très bien, avant la crise, qu'il y avait un vrai manque en périphérie. Aujourd'hui, l'enjeu aujourd'hui, c'est le rôle social et territorial des transports publics, rôle de cohésion sociale. On sait très bien, on l'a vécu avec la crise des Gilets jaunes, qu'il y a un enjeu de desserte en périphérie. Si on veut vraiment aider demain les Français à gagner du pouvoir d'achat, c'est effectivement pas forcément en rendant les transports publics gratuits, puisque le transport public c'est toujours moins cher que la voiture, mais c'est en étendant une offre de transport public qui est une alternative à la voiture. Oui. Il y a beaucoup d'endroits aujourd'hui, on l'a entendu dans les reportages tout à l'heure, où il n'y a pas une alternative qui est fiable, une alternative de qualité. On ne prend pas les transports publics parce que c'est moins cher, on prend les transports publics parce que c'est pratique, parce que ça, c'est une vraie alternative à la voiture.
Thierry Mallet, votre opinion en tant que professionnel des transports et de la mobilité, que pensez-vous du passeport vaccinal ?
Ah ben, tout ce qui permettra de retrouver plus rapidement une meilleure mobilité est un plus. Mmh. Effectivement, ça c'est... Après, il y a l'enjeu du contrôle. Mais effectivement, nous on souhaite qu'on puisse revenir le plus rapidement possible à une vie la plus normale possible. Faut pas après créer une différenciation trop forte entre les gens vaccinés et les gens non vaccinés dans la société à un moment donné. Donc, tout ce qui permettra de retrouver la mobilité, qui est quand même un élément clé. Ce qu'on a vécu avec cette crise, c'est que la mobilité c'est un élément essentiel de la vie. On en a été privé de manière collective et volontaire, je dirais. Mais il faut qu'on puisse retrouver rapidement une situation normale.
Bon, on entend qu'il y a donc un sujet sur l'offre de transport public, un sujet quand même sur le financement, ça va être un gros sujet au régional en juin, les transports publics. On voit que là, par exemple, ça s'échauffe en Ile-de-France.
Le transport est un élément essentiel, on l'a bien vu aujourd'hui, et ça va être un élément encore plus important en sortie de crise. Il y a deux dimensions au transport public. Il y a la dimension sociale que j'évoquais tout à l'heure. C'est un élément de cohésion territoriale, de cohésion sociale. Si vous n'avez pas de transport public, si vous n'avez pas de voiture, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas profiter du territoire. Donc il y a ce premier enjeu. Il y a un enjeu également, un enjeu écologique. Oui. Si on veut effectivement demain être au rendez-vous des accords de Paris, et même plus au rendez-vous des accords du Green Deal européen avec un objectif de 55% de réduction des gaz à effet de serre, on ne va pas le faire simplement en verdissant les véhicules de flotte, diesel, de véhicules individuels. On va verdir évidemment les flottes de bus, on l'a fait, on en a déjà 1200 électriques, mais il faut surtout changer de comportement, c'est-à-dire qu'il faut plus de mobilité partagée, plus de transports publics. Ça va être ça qui va nous permettre de tenir ces objectifs.
Allez, je passe à un autre dossier, le train, les transports ferroviaires. Et justement, ça se passe en région. On a une ouverture à la concurrence des TER. Ça arrive très vite, en fait. Là, il y a en ce moment, ça démarre par Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y a des candidats, Transdev en fait partie, qui ont encore 10 jours pour déposer leur offre. Avec tout ce qu'on a dit sur la fréquentation en baisse, votre intérêt n'a pas changé ?
Alors non, d'abord le faire, c'est une superbe solution de desserte des territoires, on l'a évoqué tout à l'heure, et il faut améliorer la qualité de service, il faut améliorer la fréquence. Et l'ouverture à la concurrence, c'est l'occasion d'avoir deux fois plus de trains au même prix. Quand on compare effectivement l'impact de l'ouverture à la concurrence en Allemagne avec ce qui se passe en France, ça a permis d'avoir une offre de trains qui est bien plus importante, pour un coût moindre pour la collectivité locale.
Oui, mais alors là, vous avez une baguette magique, comment est-ce que vous faites ça ? C'est-à-dire qu'en effet, les présidents de région, moi j'entends Renaud Muselier en PACA par exemple, il veut plus de qualité de service, il veut des trains à l'heure, et puis il veut des rabais. Comment vous faites ça, Transdev ?
Écoutez, c'est l'effet de l'ouverture à la concurrence. C'est-à-dire que ça nous remet dans une situation où on doit s'améliorer, parce qu'on a la pression concurrentielle. Ça fait aujourd'hui qu'un kilomètre de train en Allemagne, ça vaut 9 à 10 euros, alors qu'en France, c'est 18 euros.
Oui, mais on joue sur quel levier ?
Le levier, c'est de l'organisation.
Quand on propose sa candidature, on dit quoi ? On va faire travailler les gens différemment ? C'est quoi ? Vous dites organisation ?
Il y a deux leviers pour moi. Le premier, c'est l'autonomie. C'est rendre les gens responsables sur le terrain, les responsabiliser, et ne pas avoir des grosses machines, mais une machine sur laquelle les équipes de terrain ont la responsabilité. Et ça aboutit derrière à une organisation du travail très différente, dans laquelle, effectivement, on a plus de polycompétences, les gens font plus de tâches, et on est plus efficace. C'est-à-dire qu'avec le même nombre, la même équipe, on peut faire rouler plus de trains.
Alors, ça veut dire que vous allez imaginons que vous gagnez de l'eau, vous reprenez les salariés de la SNCF, c'est
bien
ça ?
Bien entendu.
Mais vous leur donnez plus de tâches, alors vous les payez plus aussi,
oui,
ou pas ?
On est prêt à les payer plus, mais pour une organisation du travail et un fonctionnement différent.
Prêt à payer combien plus ?
Ça, on va le garder au moment de l'appel d'offres.
Ça se négocie.
Bien entendu. Ouais. Mais le dialogue social est un élément clé dans le transport public et en particulier dans l'ouverture à la concurrence.
Allez, d'un mot, Thierry Mallet, justement, l'emploi, comment ça se passe chez Transdev dans tout ce... Est-ce qu'en ce moment, on recrute ou est-ce qu'on supprime des emplois ?
Alors, on continue de recruter, notamment dans tout ce qui sont les activités de transport public, puisque là, on est en train de continuer à se développer. On a, au niveau de la branche, un accord d'activité partielle longue durée qui permettra, si on doit réduire l'offre à certains endroits demain, de le faire sans licencier. C'est très important, et en préservant les compétences. Par contre, il y a des secteurs qui souffrent plus que d'autres. En particulier, c'est tout le secteur touristique qui est, lui, totalement à l'arrêt.
Thierry Mallet, le PDG du groupe Transdev. Merci d'avoir été sur France Inter.
Merci.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot, avec une question de Léna, qui est intermittente du spectacle. Un de ses contrats vient d'être annulé. Le théâtre qui devait l'embaucher est-il obligé de la passer en chômage partiel? Ben ça, Sandrine, c'est la question de Léna.
Oui, Léna, beaucoup d'intermittents du spectacle l'ignorent, mais oui, dans la mesure où un contrat a été formalisé et qu'il est annulé à cause de la crise sanitaire, la structure qui fait appel à vous, un théâtre, un festival, une collectivité, doit vous faire bénéficier de l'activité partielle. Même une promesse d'embauche par mail suffit, il faut juste qu'elle comprenne la date, le lieu, la fonction et bien sûr la rémunération. Donc Léna, il faut vous rapprocher de ce théâtre et lui dire que vous souhaitez passer en chômage partiel. Mais voilà, c'est plus facile à dire qu'à faire. En réalité, ce droit est peu effectif. Denis Gravouille, le secrétaire général de la CGT Spectacle, rappelle qu'au printemps, 14% des intermittents seulement avaient eu accès à l'activité partielle. En septembre, il n'y en avait plus que 3%. Les structures ne veulent plus trop formaliser ces promesses d'embauche. Et puis, il faut savoir que, contrairement à certains secteurs qui sont à l'arrêt et qui touchent 100% de l'indemnité à reverser aux salariés, l'État ne compense pas ce qu'on appelle les congés spectacles. Il y a un reste à charge que l'employeur doit payer à l'intermittent, ce qui peut le freiner dans son élan. Et puis, du côté des artistes et des techniciens, même s'ils sont dans leur bon droit, beaucoup hésitent à aller au prud'homme pour 2 jours de cachet. Personne n'a envie de se fâcher avec une structure qui a l'habitude de vous faire travailler.
Sandrine, à défaut de chômage partiel, les intermittents peuvent-ils compter sur les indemnités chômage?
Oui, c'est le cas pour ceux qui ont fait leurs 507 heures par an, qui sont dans le circuit. Mais sur les 270 000 intermittents, à peine la moitié est indemnisée. Et Denis Gravouille le précise, les trois quarts de ceux qui touchent quelque chose vivent avec 43 euros net par jour. L'avantage du chômage partiel est qu'il est pris en compte dans ces fameuses 507 heures à effectuer. Et en ce moment, c'est précieux. Les occasions de monter sur les planches ou de créer un décor ne courent pas les rues. C'est encore plus crucial pour les intermittents Léna qui n'ont pas validé assez d'heures. La situation devient ces dernières semaines préoccupante pour les maternitantes, les artistes et les techniciennes qui vont accoucher et qui n'auront pas de congé maternité ou maladie indemnisée. Les syndicats demandent que le gouvernement n'oublie pas ces primo-accédants. Pour les intermittents qui touchent une allocation, ils réclament que l'année blanche soit prolongée au-delà d'août prochain. Ils souhaitent aussi que les lieux ouvrent, que les répétitions soient payées. Ce que veulent surtout les intermittents, c'est pouvoir travailler.
Sandrine Foulon, j'ai appris un mot, hein. Maternitante. Je connaissais déjà les permittents, les intermittents. Eh ben, les maternitantes. Ma vie au boulot. Il y a un site, on va les regarder. Ma vie au boulot, Sandrine Foulon.